Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Au sommaire donc de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé aujourd'hui. Coup de cœur ciné consacré au film Les Femmes du Square. Il sortira le 16 novembre au cinéma. À cette occasion, Julien Rambaldi, le réalisateur, sera là d'ici une poignée de secondes, accompagné de Léa Drucker et de Yé Aïdara qui seront avec nous. Nos coups de cœur télé cette semaine consacrés au Saut du Diable 2 avec Philippe Basse qui va nous rejoindre ici dans quelques minutes, ainsi que Louis Duneton pour le final de la série Addict. On va continuer à parler de Plus belle la vie. Vous savez que le final et pour dans quelques jours. Dunia Kosins qui fait son arrivée également dans Demain nous appartient à Joachim Latsko sont avec nous aujourd'hui pour en parler, évoquer leurs souvenirs. Et puis en fin d'émission, on évoquera la 31e édition du Festival du film de Sarlat. On part demain au festival pour vous faire vivre cette édition comme il se doit sur nos réseaux sociaux et tout au long de la semaine. À cette occasion, Christelle Oscar, la directrice artistique du festival, et Arnaud Vial, le directeur du cinéma Le Rex, seront avec nous en fin d'émission. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer. Alors voici tout de suite notre coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film Les Femmes du Square de Julien Rambaldi qui sortira le 16 novembre au cinéma. Quel bonheur pour nous de recevoir toute une partie de l'équipe aujourd'hui avec nous, Julien Rambaldi qui est là. Bonjour Julien.
Bonjour.
Merci d'être là. On a Léa Drucker également qui est avec nous. Bonjour Léa.
Bonjour.
Joue le rôle d'Hélène et on a également Yé Aïdara qui est avec nous également et qui joue le rôle d'Angèle. Bonjour Yé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous avoir parce que ce film, il m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était vraiment un parcours singulier, celui d'Angèle qui essaye d'aller un peu au secours, on va dire, des nounous pas toujours très bien traités chez les nantis, on peut dire un peu ça comme ça. Mais la première chose que j'ai envie de demander à Julien, c'est comment est venue l'idée du film déjà, pour commencer.
Alors, pour commencer, elle est venue de mon fils qui avait 8 ans et qui un jour m'a simplement parlé de Amina, la femme qui le gardait. Et il m'a parlé de ses problèmes de santé, il m'a parlé de ses problèmes familiaux. Et je me suis dit en fait que mon fils en savait plus sur elle que moi. Et ça m'a donné l'idée justement de développer cette histoire avec cet enfant un petit peu au cœur de ces deux mondes. Les parents, pour revenir sur le mot nanti, je crois pas qu'on puisse dire que les parents dans le film soient tous des nantis. Je crois simplement que c'est des occidentaux. Voilà. Et que nous, les parents, on se rend pas bien compte en fait de la vie de ces femmes qui parfois restent assez secrètes et qu'elles exposent assez peu. Et puis les parents eux-mêmes n'ont pas très envie de savoir en fait leur vie parce qu'elles ont leur enfant. Ils ont leur enfant au milieu, donc il y a une sorte de secret un peu gardé comme ça entre ces deux mondes et l'enfant est au milieu. Voilà.
Léa, vous jouez le rôle d'Hélène qui accueille justement donc une nouvelle nounou, Angèle. Comment on pourrait la définir, Hélène, pour commencer, Léa?
Bah, Hélène, je dirais que c'est une femme un peu perdue.
Elle est relativement seule, on la sent, ouais, relativement seule avec son fils.
Elle est très seule, elle est en instance de divorce, elle travaille beaucoup, donc elle doit avoir peu d'amis, elle a même pas le temps de s'occuper correctement de ses enfants, et donc dans l'urgence, elle engage Angèle, qui est cette jeune femme jouée par Yé Aïdara, qui fait irruption dans cette vie-là, une vie un peu triste, un peu terne, et qui va illuminer la vie de son fils, Arthur, qui est un enfant dont les parents sont donc en train de se séparer et qui a besoin d'un soutien et probablement ne le trouve pas. Tout ça est dit en arrière-fond, hein, bien sûr, mais c'est-à-dire qu'on imagine que ce petit garçon a besoin d'une relation qui puisse, une relation sincère, honnête. Il va la trouver avec Angèle. Et Angèle est une femme qui est dans la survie, voilà, parce qu'elle est dans cette épopée de la survie à Paris. Quand on n'a pas ses papiers, quand on cherche du boulot, mais sa vocation n'est pas du tout de s'occuper des enfants. Mais tu vas en parler mieux que moi.
Oui, c'est vrai, effectivement. C'est très juste. Elle est effectivement dans la survie. C'est un personnage qui est dans la débrouille quotidienne et qui va se retrouver à faire la nounou, pas par choix, pas parce qu'elle en avait envie. Donc c'est quelqu'un aussi, qui par défaut se retrouve là à garder ce petit garçon et qui va pas savoir forcément mettre les formes. Mais ça reste quand même, je pense, une bonne nounou. En tout cas, elle sait apporter à cet enfant ce qu'il a besoin à ce moment-là, et elle va prendre conscience de ce monde, le monde des nounous, où elle va regarder un petit peu comment ces femmes sont aussi traitées, et quel est leur quotidien, et elle va être prise, elle va prendre parti pour ces femmes, elle va vouloir les défendre, elle va vouloir faire un peu la justicière, parce que c'est aussi sa nature.
À mettre tout son bagou et son énergie justement au service de ces femmes. Et c'est là qu'elle va rencontrer peut-être l'homme de sa vie, on ne sait pas, on verra. En tout cas, elle va rencontrer le personnage d'Ahmed Silla qui lui défend plutôt les parents.
Oui, alors il défend les parents par défaut aussi, hein, pareil. Hein, je veux dire, c'est un avocat.
Un peu obligé quoi d'ailleurs.
Il est un peu obligé, il défend les parents parce que c'est un dossier que son patron lui soumet. Et de là, il va rencontrer... Angèle, et c'est un avocat aussi qui a envie de s'engager, mais qui a besoin un petit peu qu'on le bouscule. Et Angèle va avoir les mots, le bagou pour le bousculer et pour le faire entrer dans son combat.
Elle m'a marqué par son énergie incroyable. Et franchement, vous portez le film. Et c'est assez incroyable parce que vous nous tenez du début à la fin avec cette histoire. Et on se met vraiment justement à la place de ces nounous, à la place de ces enfants aussi, qui peuvent souffrir de par la séparation. Parce que mine de rien, quand un parent prend la décision de changer sa nounou, l'enfant peut être beaucoup plus attaché qu'on ne le pense. Et c'est ce qu'on se rend compte, notamment avec le film, quoi.
Ouais, parce que c'est pas les mêmes rapports qu'ont les enfants avec les nounous. C'est pas la même façon de vouloir protéger son enfant. On se dit qu'on va protéger son enfant en l'enlevant de cette nounou, mais peut-être que cette nounou, effectivement, elle apporte quelque chose à l'enfant dont il a besoin à ce moment-là. Et effectivement, c'est difficile d'extérieur, c'est difficile de se positionner vis-à-vis de ce que ressentent les parents et ce que ressentent l'enfant. Enfin, c'est toujours... C'est vrai que je l'ai entendu souvent aujourd'hui porter le film. J'étais pas toute seule, hein. Vraiment, vraiment. Déjà, il y avait un beau scénario. Merci, Julien. Et il y avait un bon directeur d'acteur, quand même.
C'est ça, quand on met une énergie comme ça, c'est qu'il faut qu'il y ait un directeur d'acteur qui soit derrière en train de dire on y va.
C'est vrai, je le porte pas du tout toute seule, loin de là. J'étais très, 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 très entourée, très, très bien entourée avec Vidal, qui est super, c'est un enfant.
Ce petit garçon, il est incroyable.
Oui, il est génial. Il est un petit peu, je pense qu'il est très avancé, il est très mature. Donc c'est toujours particulier de jouer avec les enfants, hein, parce que les enfants, ils sont vrais, c'est des vraies natures. Mais lui, il avait vraiment conscience de chaque chose.
Julien, on va écouter la bande-annonce du film Les Femmes du Square. Ça sort donc le 16 novembre au cinéma et on revient juste après avec vous trois. On va parler un petit peu des coulisses quand même de tournage, mon cher Julien. Alors à tout de suite.
C'est une occasion d'or, 100 euros. Pour toi, c'est 80.
C'est la troisième fois que tu te fais attraper. Tu vas me rembourser, hein. Tu as compris?
Si vous avez besoin d'argent, je connais quelqu'un qui cherche une nounou et qui propose un logement qui va avec. La chose la plus importante, chante une routine africaine. Chez les bobos, ça marche à tous les coups.
Coller, coller la petite. Zang la petite, coller, coller.
Tu m'as acheté un pain au chocolat?
Pardon. Bienvenue au square.
Dites-moi, ici, ça se mélange pas trop, on dirait. Hein.
Les nounous, c'est comme le foot, chacun son club.
Ma patronne, là, parfois... Elle revient plus tôt et elle me retire même des heures.
Ok, eh bien on va arranger ça.
C'est à quel sujet?
Aminata Ndiaye, assistante sociale et juridique. Appelez-moi maître.
T'es une filoute, toi.
Ah, c'est pas mal, ça.
Les filles, on arrête de se faire enfler maintenant, hein.
Je voudrais voir maître Sarr.
Maître Sarr, c'est moi.
Je vais la défendre, ta copine.
Merci, hein. M'attendez pas à tomber sur un avocat sympathique. On est ensemble, ma sœur.
On est ensemble, chérie.
De retour pour notre spécial Les Femmes du Square, un magnifique film à découvrir avec Ahmed Silla, Léa Drucker, Vidal Arzoni et Yéa Hidara également qui est avec nous, Léa aussi, Julien Rambaldi aux manettes de ce film. Mis en boîte en combien de temps, Julien ?
8 semaines.
Donc c'est court hein, quand même, malgré tout.
Non, ça va. Aujourd'hui dans le cinéma, on est heureux avec 8 semaines.
Ben voilà, au moins c'est dit.
Alors le tournage était un peu particulier parce qu'on était en plein dans le deuxième confinement, me semble-t-il. Mais tout s'est très bien déroulé.
Alors justement, pour trouver ces personnages d'Angèle et personnages joués par Ahmed Silla, ces deux-là, c'était ancré assez vite dans votre tête.
Alors, ancré, si on revient au stade du scénario, c'est vrai que il y avait pas mal de façons de raconter cette histoire. Et le personnage d'Angèle est arrivé à la fin. Enfin, quand je dis le personnage d'Angèle, c'est la caractérisation d'Angèle. C'est la dernière mouture de scénario, mais c'est celle qui m'excitait depuis le début, que j'avais en tête, mais que je n'arrivais pas vraiment à fabriquer. Et puis c'est sorti. Et le jour où j'ai compris qu'il fallait que ce soit un personnage qui soit extérieur à ce monde et à ce microcosme des femmes qui s'occupent des enfants, qu'elle soit le regard, en fait, j'ai pu complètement me lâcher et l'imaginer comme un ange gardien. Et c'est vrai que ce personnage-là, à partir de là, rentre dans le film, on fait tout le film avec elle, et c'est une sorte de Julia Roberts ou de Gloria, c'est une super-héroïne, en fait, qui bouleverse absolument tous les personnages du film, ce qui rend, je crois aussi, le voyage assez jubilatoire tout le long du film.
C'est une comédie romantique aussi, hein, quand même, puisqu'il y a quand même, voilà, il y a de l'amour, il y a de l'émotion, il y a du suspense, il y a plein de choses dans ce film. Est-ce qu'il y a une scène particulière qui vous revient en tête là, toutes les deux ?
Moi, la scène que j'ai avec Yé, là, une scène que j'aime beaucoup. Je veux pas trop en raconter, mais une scène où on a une conversation, il y a un vrai échange entre ces deux personnages. C'est une scène que j'aime beaucoup. Voilà. Où ces deux personnages, à un moment donné, se retrouvent à égalité, quoi. Oui. Mais il y a un vrai échange de femme à femme.
Et où on voit bien, je trouve, les deux mondes. C'est-à-dire une femme occidentale qui est perdue dans sa vie professionnelle et sentimentale. Et de l'autre côté, une femme qui est plus dans la survie. Et c'est vrai que cette scène raconte bien, pour la première fois dans le film, la rencontre et la connexion qui peut se faire. Voilà.
Je vous conseille ce film, ça s'appelle Les Femmes du Square, ça sort le 16 novembre au cinéma. Ne le ratez pas, en tout cas, c'est un très très joli film à découvrir sur vos écrans. Merci beaucoup et merci Léa, merci Julien d'avoir été avec nous et puis je vous dis à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Ton adversaire, tu dois le regarder comme ça, droit dans les yeux.
Voilà, tu me chopes par le haut. Autour, autour, arrive aussi. Tu le niques et tu me mets ce grand bâtard par terre.
Il y a un problème ?
Quoi, j'aimerais bien que tu t'occupes de la situation.
Et croyez-moi, je vais tout faire pour vous aider.
Il faut savoir prendre des risques dans la vie.
Dans un instant, Philippe Bass, Louis Duneton, Joachim Latsko, Dunia Cossins, Christelle Oscar et Arnaud Vial nous rejoignent. Alors surtout, ne bougez pas, tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
De l'eau salée dans mon café, mes joues s'étalent. Nous deux défaits, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça déraille? On se déchire au quotidien, le pire c'est qu'on le vit bien, chacun dans son coin. Je t'écoute, j'ai tous les torts, pas ni doute ni remords. Si je comprends bien, c'est pas ta faute, t'as rien raté. T'es comme les autres et mon cœur, c'est pas toi qui l'a cassé. C'est pas ta faute, j'suis désolée. J'suis comme les autres et pas comme les autres, j'vais pas rester. Touloulou, touloulou, toutou. Touloulou, touloulou, toutou. Touloulou, touloulou, toutou. J'vais pas rester. Touloulou, touloulou, toutou. Touloulou, touloulou, toutou. Touloulou, touloulou, toutou. J'vais pas rester. Les moments de crise, quoi qu'on en dise, sont importants. Ainsi se précise la vraie nature de nos sentiments. Toi tu fuis, tu fais semblant, tu m'évites évidemment. On est devenus voisins. Je t'écoute, j'ai tous les torts, t'as ni doute ni remords. Si je comprends bien, toi qui l'a cassé. C'est pas ta faute, je suis désolée. Je suis comme les autres, et ben comme les autres, je vais pas rester.
Rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré au Saut du Diable 2, la suite, le Sentier des Loups, avec Philippe Basque qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Philippe.
Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'inviter. Bonjour
et,
à tous.
Ben merci, merci d'être avec nous. Écoute, tu étais là pour le premier numéro du Saut du Diable qui nous avait emmené dans des paysages absolument magnifiques. Et puis là, ben, c'est la suite avec une toute nouvelle histoire, le Sentier des Loups, une fiction dans laquelle tu es très impliqué, Philippe. Rappelle-nous un petit peu à quel point. Mais tu participes à la production, tu participes à beaucoup de choses sur cette fiction dont tu as été instigateur, hein, je crois.
Oui, j'ai fait partie des gens qui l'ont initié, ce projet, et en fait, pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice sur un plan artistique, j'ai pu être coproducteur de ce projet. Alors, je m'occupe pas de tout ce qui est une logistique lourde en termes de budget, tout ça, ça c'est pas tellement mon rôle, mais en revanche, j'essaie de faire venir des talents, j'essaie de donner parfois mon avis, des idées, et de soumettre des idées aux auteurs. Par exemple, j'avais émis l'hypothèse qu'on puisse tourner dans un décor différent pour pouvoir qu'on puisse voir différents aspects, différents décors qu'il y a en France, notamment le sud de la France. Et j'avais envie qu'on ait cette chaleur, ce film un peu d'été. Et j'ai notamment pu amener Julien Seyri, qui est une personne avec qui j'avais déjà, le réalisateur du Sentier des Loups, qui est un garçon avec qui j'avais déjà fait 6-7 films. Et donc, on avait envie de retravailler ensemble. Donc, voilà, en fait, de quelle manière j'essaye de m'impliquer sur le plan artistique. Et du coup, on est très content parce qu'on a tourné dans cette belle région et on a pu donner une suite avec des, comme tu l'as dit, des très beaux paysages. Et c'était important qu'on puisse remplir notre promesse en ce qui concerne les paysages et donner un aperçu assez fort pour le public. Voilà.
Alors Paul Villard va reprendre du service dans ce nouveau numéro pour accompagner 5 jeunes qui vont découvrir un peu l'armée en quelque sorte, sauf que rien ne va ne se passer comme prévu, bien évidemment, car il va y avoir une histoire de statuettes et des retours de morts-vivants en quelque sorte qui vont venir semer le trouble dans tout ça.
Exactement, c'est assez bien résumé, assez bien pitché, bravo.
T'as vu sans trop en dire en plus, hein.
Tout à fait, c'est pour ça que je trouve ça vraiment formidable, parce que tu as dit vraiment la vérité du film sans déflorer le sujet principal. Donc tu parles du... Non, c'est très très bien, bravo. Vraiment, vous avez de la chance, hein, de l'écouter. Hein.
Bon, en tout cas, on y retrouve évidemment celle qui joue ta fille, Mayra Schmitt, qui en avait bavé dans l'eau, je me rappelle, hein, lors du premier numéro. Et donc Mayra va faire partie de ces 5 jeunes aussi. Comment est venue l'idée de cette suite? Est-ce que ça a été une évidence? Est-ce que pour TF1, ça a été tout de suite aussi un coup de foudre après le premier numéro de se dire, tiens, voilà, si on développait un peu le personnage et qu'on faisait revenir Paul Villard pour une deuxième aventure, au moins pour commencer déjà?
Exactement. En quelque sorte, c'est tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on avait émis l'hypothèse de peut-être de faire d'autres épisodes si jamais le succès était au rendez-vous. C'était quelque chose qu'on s'était quand même dit, quoi, parce qu'on aimait bien cette promesse d'aventure, d'action, dans le divertissement, avec quand même des choses assez belles à voir. C'est une offre qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur les chaînes, parfois comme ça, peut-être sur des plateformes davantage. Mais donc on était vraiment enthousiaste à l'idée de faire une suite, même c'était dans les cartons, dans les tuyaux, quoi. Et donc le succès du premier nous a permis de le faire, de mettre cette suite en route. Et donc on a eu cette idée d'amener un peu plus de jeunesse aussi avec ce groupe d'adolescents, en fait de faire revenir le passé dans le quotidien de ce personnage, de Paul Villard. Et puis c'est à la fois un passé qu'il avait en termes de... Dans le premier épisode, il avait une forme de un petit peu de névrose, il avait du mal à se détacher des souffrances qu'il avait eues avec le départ de ses amis. Et puis c'est quelque chose qu'il a réglé grâce à sa fille. Et en fin de compte, là, on retrouve un personnage qui est libre, qui vit un peu dans un décor de western moderne. Et puis il retrouve ses ados avec lesquels il va faire une espèce de randonnée effectivement avec en toile de fond l'armée, mais dans quelque chose de qui est vraiment de l'ordre de la découverte, hein, donc c'est très cool. Sauf qu'effectivement, comme tu l'as dit, rien ne va se passer comme prévu, et surtout le passé concrètement va revenir face à ce personnage de Paul Viard. Donc là, on va rentrer dans une autre dimension. Autant dans le premier, c'était quelque chose qu'il avait dans sa tête, une forme de névrose, autant là, effectivement, jamais il aurait pu s'attendre à ça, et là, ça revient frapper à sa porte, et c'est assez brutal, et en même temps, assez divertissant.
Oui, et vous allez voir qu'aucun personnage va être épargné. On y retrouve un très beau casting à tes côtés, Sarah Mortensen, Jérôme Anger, Édouard Montaut, Benjamin Baroche, évidemment, que vous allez voir toujours aussi jouissif dans ce rôle, encore une fois, et vous allez voir aussi la jeune Zoé Rang, qui joue une des cinq jeunes, et avec Maïra, c'est pas la première fois qu'elle se retrouve, puisque c'est la deuxième fois, mais malgré tout, la première fois, le film n'a pas été diffusé, s'appelle La vie devant toi. Il a été primé d'ailleurs au Festival de la fiction de La Rochelle. Elles ont décroché le titre de meilleure interprétation féminine et c'est très mérité. En tout cas, je sais qu'elles se retrouvaient avec grand plaisir pour la deuxième fois toutes les deux, hein, Zoé et Maïra.
Ah oui, complètement. Elles étaient très complices. Bon, on était tous assez potes. L'avantage, c'est quand on a des tournages comme ça, avec les difficultés qu'on peut toujours avoir sur un tournage, mais avec une dynamique... enthousiaste et plutôt heureuse parce qu'on était quand même dans de belles conditions. Donc c'était propice à une espèce de complicité légère, une camaraderie, franchement on était bien quoi, avec l'équipe. Et Maïra et Zoé, bon c'est vrai qu'elles sont formidables, elles ont eu ce prix d'interprétation et donc du coup on était ravis quand on l'a appris là en septembre, on était contents, on dit mais vous nous aviez pas dit que vous aviez tourné un film comme ça ensemble, elles nous l'avaient même pas dit. Donc c'était très drôle parce qu'on les voyait super copines et c'était un truc qu'on ne savait pas et donc on va pas louper cette diffusion. Et donc on était ravis de les avoir, on était ravis d'avoir Laurette, on était ravis d'avoir Scotty, Jean-Stan Dupac aussi qui est un garçon formidable, qui est très séduisant, je pense qu'il va plaire à beaucoup de gens. Et Edouard, bien sûr, Jérôme Anger, qui est formidable. Enfin, c'est vrai qu'on a eu de la chance, Julien, TF1, la production, on a réussi à réunir des gens, d'abord, qui étaient très contents d'être là.
Ah, il y a une belle brochette.
Benjamin, exactement. Et avec Benjamin, moi, Benjamin, j'avais très envie même de l'avoir sur le premier, en fait. Et donc, il n'était pas libre, parce que c'est quelqu'un qui tourne beaucoup, comme moi.
Oui.
Et puis, nous, on pouvait pas modifier nos dates que nous avions sur le premier. En revanche, sur celui-ci, j'ai pu m'y prendre plus en amont et lui demander si... peut-être qu'il pourrait être disponible quand même, et parce que moi j'avais envie de le retrouver, d'abord parce qu'on est copains, et puis en plus je trouvais qu'il serait formidable, parce que on forme un bon duo, même des antagonistes, et ça marche vraiment bien, et puis comme on s'aime bien, c'est plus agréable de travailler avec des gens qu'on aime, donc on s'en est pas privé. Et donc, il a pu se libérer, puis il est venu, et puis TF1 était ravi, bien sûr. Donc, vraiment, on a eu de la chance pour pouvoir faire ce film.
Et dis donc, tu donnes beaucoup de ton corps, dis donc. Dès le début, d'ailleurs, hein, j'ai l'impression, mesdames, ne ratez pas dès le début de la fiction. Hein. Soyez au rendez-vous dès 21h10, un conseil.
Oui, faut pas louper. Il y a des trucs assez rares. Si on a envie de les voir, il faut pas louper le début.
Voilà. Je crois qu'on en a assez dit. Hein. On va pas en dire plus.
Ouais.
Bon. D'accord. En tout cas, mon cher Philippe, est-ce que toi, t'as déjà envie d'une troisième aventure?
Tout à fait. Et avec Julien, on en reparle parce que Julien aimerait bien recommencer aussi. Et moi, beaucoup. Et la chaîne aussi. Donc, on prépare déjà un 3 et un 4 pour l'année prochaine. Il faut qu'on s'y prenne dès maintenant pour pas faire attendre les gens. C'est pas un regret, mais peut-être je pourrais me concentrer davantage pour faire en sorte que ce soit arrivé un peu plus tôt, de façon à ce qu'on n'ait pas à attendre presque...
2 ans pour avoir une suite, ouais.
Exactement, déjà. En tout cas oui. Pour la tournée. Donc du coup, on va essayer de faire en sorte d'avoir une sorte de collection, un peu Paul Viard, Le Saut du Diable, et d'apporter au public peut-être d'autres aventures dans d'autres endroits, d'autres univers, mais avec toujours ce souci des grands espaces, du divertissement et quelque chose de sympa à regarder, quoi, tout simplement pour les gens. Ça, c'est vraiment notre désir, quoi, parce qu'il y a une très belle offre aujourd'hui avec tous les plateformes et on voudrait amener une sorte d'objet qui puisse être vu un peu comme un mini blockbuster, quoi, comme un film avec cette aventure, avec des paysages, avec des personnages qui ont vraiment cette humanité comme les ados que nous avions, qu'on puisse tous s'identifier à ces personnages et leurs aventures. Tout en restant humble, hein, mais en essayant d'amener une offre pour TF1 qui soit vraiment sympa.
Mais en tout cas, c'est complètement différent. Mais oui, mais c'est complètement différent de ce qu'on peut voir dans cette case. Et c'est ça qui est bien, parce que là, il y a de l'aventure, il y a de l'action, il y a du suspense. Tu es un peu notre Jack Bauer à la française, quoi, clairement, hein, où t'essayes toujours, de sauver tout le monde dans le film. Mais c'est un vrai plaisir de voir un vrai film d'action qui pourrait avoir aussi bien sa place au cinéma sur un écran géant, parce que franchement, la beauté des paysages, tout est soigné. Donc vraiment, bravo à tout le monde pour ça. Ouais.
Oui, on a essayé de vraiment de faire cet effort d'apporter une offre avec quelque chose de bien filmé. On avait un super chef op. Julien est un réalisateur qui a fait pas mal de cinéma. On a tourné dans un rayon de 90 km à peu près autour d'Aix-en-Provence. On a tourné dans le Var, on a tourné dans les Bouches-du-Rhône, on a tourné dans le massif de la Sainte-Baume, à la Sainte-Victoire, on a tourné dans le Colorado provençal. On a essayé de mettre en avant les choses de la région qui sont vraiment très très belles. Et on a l'impression d'être dans un western moderne. On voulait donner, on parlait du début tout à l'heure en rigolant, mais en fin de compte, on voulait montrer que le personnage au début est libre, il est libéré de son passé, de ses névroses, et il est dans la nature, dans ces espaces qui sont quand même très beaux. Et on a tout ça en France d'ailleurs. Il y a plein d'autres régions qui sont, c'est une chance pour nous, qui vont être une source de peut-être pour les prochains épisodes, mais on voulait aussi montrer ça, cette diversité qu'il y a dans ces paysages, dans ces décors, et tout en amenant une histoire qui nous permette de grâce au récit, de pouvoir traverser tous ces endroits, les mines du Briou, la forêt de Bibémus au-dessus d'Aix-en-Provence. Nous avons même été à Marseille. C'était vraiment, vraiment sympa. Et puis, on a eu de la chance parce qu'on a eu la météo avec nous, on n'a pas eu d'alerte, on est passé entre les gouttes. Et c'était formidable parce que l'accueil était aussi formidable. Donc, vraiment, c'est un souvenir... très agréable pour moi. Très
oui,
agréable.
Vous avez eu plus chaud que sur le 1, c'est clair. Ça se voit.
Ah oui. Ah bah, il y a une scène qui se passe dans un avion. Donc, sans raconter ce qui s'y passe, ce que je peux vous dire, c'est pendant le tournage, on a tourné dans l'avion qui est le dernier Nord Atlas en activité, qui est un avion extraordinaire de l'armée française. C'est un vieil avion. Et on a tourné dedans, il faisait 43. On a tourné 2 heures dedans. C'était drôle. Il y avait un thermomètre, il y avait marqué 43. C'était très drôle parce qu'il fallait que je change de combinaison. J'en avais 2. Et donc, je changeais de combinaison constamment pendant qu'on faisait sécher l'autre. C'était assez drôle parce que c'est exceptionnel de tourner dans ces conditions. On se dit, mais c'est incroyable.
Mais c'est vraiment toi qui as sauté, vraiment Philippe? Fun.
Oui, tout à fait. J'ai sauté le dimanche. Ouais. Parce que, en fait, il faut savoir que sur le premier épisode, nous avions 26 jours de tournage.
Ce qui est beaucoup pour un téléfilm, hein, on peut le dire, parce qu'un film, normalement, c'est 20, 21 jours grand max à la télé. Donc, c'est bien que vous ayez quelques jours de plus.
Tout à fait, parce qu'on tournait dans les décors qui nécessitaient cette logistique et on avait 26 jours de tournage. Là, sur celui-ci, on avait 23 jours de tournage, mais nous avions à peu près 45 décors de plus et 25 personnages de plus. Oui. Donc, ça a été une logistique qui était vraiment très lourde. Ça a été formidable. C'était grâce à Julien Siri et grâce à l'équipe, on a réussi à faire tout ça. C'était un vrai challenge. Mais du coup, pour le parachute, je pouvais pas le faire sur le temps de tournage normal. Donc, j'y allais le dimanche et j'ai pu être filmé par les parachutistes. Et donc, j'ai pu faire une vingtaine de sauts. Et il y a 2 plans dans le film où c'est pas moi, parce que je pouvais pas, en termes de temporalité, le faire. Mais en revanche, quand on me voit en parachute, on me voit bien. Voilà, je suis à 4000 mètres et je vole. Quand on me voit ouvrir le parachute, c'est bien moi.
Ah, c'est excellent.
Voilà. Il y a juste 2 plans, je le dis parce que j'ai pas de problème avec ça. Il y a juste 2 plans où c'est pas moi parce que là, en termes de temporalité, je pouvais pas le faire. Il m'aurait fallu 5 jours de plus pour faire ces plans-là. Mais grâce à ça, j'ai pu faire une vingtaine de sauts. Aujourd'hui, je suis parachutiste, j'ai passé mon brevet B. Et j'encourage tout le monde à en faire si on en a l'occasion, si on a la santé pour le faire. L'occasion, faut vraiment pas hésiter. Il y a des baptêmes, c'est formidable le parachutisme. Et donc, j'ai fait ça à Gap-Talard. Le dimanche, j'allais là-bas tourner avec cette équipe de parachutistes et c'était... vraiment, vraiment très sympa.
Eh bien, on va vous laisser vous évader, en tout cas, le temps de cette soirée. Ce soir, c'est à 21h10 sur TF1. Ça s'appelle Le Saut du Diable 2. C'est le Sentier des Loups que vous allez pouvoir donc déguster ce soir. Vous allez prendre double dose, évidemment, de Benjamin Baroche parce que vous le retrouverez aussi à 18h30 dans Ici, tout commence. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous.
Merci à vous tous. Et puis, à ce soir, surtout, loupez pas le début. Et puis, je vous embrasse et merci de nous suivre en espérant que ce téléfilm va vous plaire. Et merci à toi, merci encore pour ton accueil. À très vite, hein. Merci encore.
Et à très bientôt, Philippe. Tout de suite, la bande annonce.
Pour moi, t'es le meilleur des papas.
Alors ça y est, tu rempiles ?
Non, non, c'est juste une IPN avec 5 jeunes, dont ma fille.
Une immersion pleine nature.
C'est en mode Koh-Lanta, quoi, c'est trop cool.
Qui ne sera pas une promenade.
C'est beau !
Wouah !
Bouge pas.
Papa !
Les mercenaires ont pris en otage le groupe. Il veut que je leur apporte les statues. Sinon, ils les tueront. Il faut que j'aille récupérer ma fille.
Si tu me la fais à l'envers, on exécute un otage.
Vous n'allez pas tirer au milieu des œuvres là.
Inédit, Le Saut du Diable 2, Le Sentier des Loups,
lundi à 21h10 sur TF1.
Allez, on continue Plus belle la vie avec les comédiens de la série qui nous rejoignent. Quel bonheur de terminer cette aventure avec vous. Ça fait des années qu'on se suit les uns et les autres. Et là, c'est Dunia Cossins et Joachim Natsuko qui sont avec nous. Le docteur Riva et Dunia, évidemment, qui jouent le rôle de Johanna Marcy. Un rôle qu'elle a démarré à 16 ans. C'est dingue ce qui s'est passé en 18 ans de temps. Et bonjour à tous les deux. Merci d'être là.
Bah, merci à toi, Alain. Merci d'être
fidèle. Salut, Alain. Merci. Toujours un bonheur de faire une interview avec toi.
Écoute, moi, ça me tenait à cœur de terminer cette aventure avec vous de façon joyeuse parce que j'ai envie qu'on évoque aussi tous ces souvenirs avant ce final vendredi. Vendredi soir, c'est la soirée des fans. C'est la soirée à ne pas manquer. Dès 20h20 avec la quotidienne, à 21h10 avec le prime, la fin. Et juste après, avec encore quelques bonus, quelques reportages qui vont suivre. Bref, c'est vraiment la grande soirée à ne pas manquer de ce vendredi 18 novembre. En attendant, ça fait combien d'années tous les deux que vous êtes dans la série? Alors, je crois que toi, Dunia, t'étais dès le premier épisode.
Oui, effectivement, j'étais dès le premier épisode. La famille Marcy revenait de vacances et voyait justement la famille Chaumette avec Ninon, Vincent, des Parisiens qui s'installaient à Marseille. Donc, ouais, j'avais un t-shirt rose et boucles d'oreilles rouges. J'avais 15 ans. Donc, c'est très, très bon souvenir. Voilà, puis j'ai fait 10 ans jusqu'à mes 25 ans. Je suis partie il y a 8 ans, mais ça m'a construit. C'est une tellement belle aventure et je suis très, même si je ne suis plus maintenant aujourd'hui, je suis très triste que ça s'arrête.
Et tu apparais dans le prime quand même vendredi, une petite apparition, mais on va pas dire dans quelles circonstances, évidemment, parce qu'on laisse la surprise.
Petite apparition, je sais même pas si vous allez me voir.
Mais on dit pas dans quelles circonstances, parce que c'est la fin qui sera évidemment la surprise finale de ce prime de vendredi. Joachim, ça fait combien d'années? Alors toi, t'es arrivé à Fleur au fusil après la mort du juge Florian pour venir consoler Thomas.
Effectivement. D'ailleurs, je me rappelle de mon arrivée où j'ai
dit que ça allait être joyeux.
À l'époque, j'avais eu le malheur de regarder les forums et je voyais « Quoi ? Mais il est moche ! Ouais, on préférait le juge Esteve !» J'ai fait « Ok, je ferme mon ordi, plus jamais je regarde les forums. » Mais effectivement, moi, ça fait quand même 11 ans, donc c'était une épopée, hein, ma foi. Ah, bah voilà.
Ah, bah voilà. Ah.
Ça y est, tu peux laisser les ringards et tu peux venir avec moi.
Je voulais dire, on allait terminer de façon joyeuse. Alors, on est plus deux, on est quatre. Et franchement, quel bonheur de vous avoir, puisqu'on a été rejoint par Stéphane Hénon et Jérôme Mertin, les deux meilleurs flics de France.
Oui, c'est vrai que je pense que je pourrais être nommé ministre de l'Intérieur.
Je pense aussi.
Comme Stéphane Bern est devenu ministre de la Culture, hein, d'une certaine manière. Moi, j'ai quand même arrêté au moins deux tueurs en série. Hein, donc voilà, je suis prêt. Emmanuel, si tu m'écoutes...
C'est quoi cet accent, on est bien d'où?
Parce que ce serait bien d'avoir un ministre de l'Intérieur marseillais.
Ah, ouais, là, il fait l'accent. Ouais, c'est bizarre. Non, mais il a envie de travailler à Montpellier, lui, je crois.
Bon, en tout cas, c'est une fin joyeuse qui nous attend vendredi, on le disait avec Joachim Dunia. Vendredi soir, c'est la fin. Le final de Plus belle la vie. Alors vos souvenirs, parce qu'on était en train de faire les souvenirs juste avant que vous arriviez, parce que vous êtes arrivés juste un tout petit peu en avance, mais c'est génial parce qu'au moins vous êtes là tous les quatre. Alors Joachim, ça fait 11 ans, tu disais que toi t'es dans la série.
Eh oui, déjà 11 ans, ma foi. Alors mon meilleur souvenir, je pense que alors il y a un prime à Lourmarin avec Dajou qui était génial, on était tous en vase clos, Philippe Dajou, on se régale. Voilà, et franchement c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai. Artistiquement, Dajou il était à fond. Bon, il y en a 50 000 autres, mais il y a ça qui me vient à l'esprit comme ça à brûle pour point.
Ouais, et il faut dire aussi que ça a été le premier mariage à la télé homosexuel. 3 jours après que la loi passe, Plus belle la vie a toujours été en avance sur tous les sujets de société. C'est ça aussi qui est très très fort et qui a toujours été très fort dans la série. Et ça a marqué, je crois, l'histoire de la série aussi.
Et aussi la représentativité, la visibilité de toutes les minorités. Moi, je suis quand même métisse, hongrois, togolais. Il y a quand même des blacks, pas beaucoup de jaunes, hein, malheureusement, mais il y a quand même des rebeux, etc. Et c'est la première fois... Moi, je me rappelle quand j'avais passé les premiers castings pour Plus belle la vie, j'avais pas encore. J'ai passé 3 castings avant Plus belle la vie, et en fait, je voulais absolument faire un truc mainstream, tu vois, où on puisse voir que je peux être dans quelque chose de mainstream, parce qu'avec ma tête de métèque, je me disais personne va me prendre nulle part. Et Plus belle la vie, c'est aussi ça. Il y a toutes les nationalités, et ça, c'est quand même une partie importante vraiment de la série. Non, mais pour de vrai, vraiment.
Dunia, les souvenirs.
Je me suis construite avec ça, donc c'est vrai que quand on arrive à l'adolescence dans une série qui a pris autant à l'époque, qui était précurseur de...
Tu avais de la...
De plein de choses. Oui, j'avais de l'acné. Franchement, ça m'a formé, ça m'a appris plein de choses, ne serait-ce que d'être mis sur le devant de la scène comme ça à l'adolescence, c'était pas évident. Et heureusement que j'étais entourée de toute cette troupe qui m'a soutenue, qui m'a aidée et qui m'a beaucoup appris sur le métier. Moi, je connaissais rien. Et c'est aux côtés de comédiens comme Stéphane Hénon, Cécilia Ornus, Thierry Ragnaud, tout ça, qui m'ont vraiment portée en tant que comédienne et qui m'ont appris plein de choses. Et je les remercie aujourd'hui. Voilà, il est à côté.
Mais attends, hey, ton frère est revenu quand même. Reviens pour ce prime. Ça, c'est incroyable aussi, le retour de Geoffrey Sauveau. Quel bonheur de revoir le personnage de Lucas aussi pour ce final.
Oui, effectivement, il revient. Alors, je crois qu'il n'a pas vraiment de scène avec des dialogues et tout ça, mais en tout cas, on le revoit. Et c'est vrai que la famille Marcy est recomposée au grand complet. Donc, du coup, ça nous a fait extrêmement plaisir, même si moi, franchement, j'apparais vraiment sur le dernier plan de fin. Et encore, je sais pas si on va me voir, mais en tout cas.
C'est une surprise, on dit pas plus parce qu'il y a une surprise à la fin, mais on vous en dit pas plus.
En tout cas, voilà tout ce que ça a créé de liens. Oui, c'est quand Johanna Marcy meurt.
Non, c'est pas vrai. Du tout.
Non, mais ça a créé vraiment des liens très très forts et moi ça m'a construite en tant que personne, en tant que comédienne. Donc je remercie cette série pour ça.
Et bien dis donc, depuis quelques jours, c'est l'événement puisque tu viens d'arriver dans Demain nous appartient. Donc ça aussi, c'est une belle aventure puisque t'as commencé le tournage en septembre et donc là, ça y est, c'est ton arrivée dans la série.
Oui, effectivement, je suis très heureuse. J'ai un très beau rôle. Vraiment, ils m'ont fait confiance pour défendre un personnage qui est pas évident. Donc, j'espère que je serai à la hauteur. Mais voilà, je suis ravie d'être là-bas. On retrouve beaucoup de gens de plus belles là-bas, les équipes techniques qui sont déplacées jusque là-bas. Donc, je suis un peu en famille aussi quelque part. Mais je suis très heureuse de défendre ce nouveau personnage et j'espère que ça va plaire au public, même si Stéphane Hénon est déjà en train de s'endormir pendant que je parle. Mais en tout cas, je suis très heureuse d'avoir intégré cette série.
La Doc Helvéto continue l'année prochaine.
La Doc Helvéto continue. On tourne deux épisodes, donc en février-mars et après la rentrée 2023. Je suis très heureuse. Emma me manque. Mon personnage me manque déjà parce que c'est vrai qu'il est en couleur et qu'il y a beaucoup de comédie. Donc vous verrez par rapport au personnage qu'on installe dans DNA, c'est complètement différent. Mais ouais, j'espère que vous serez là, les copains. J'espère que vous me rejoindrez sur la Doc Helvéto.
Mais je suis sûr qu'elle va faire des guests parce que c'est Dounia dans la Doc Helvéto qui propose des guests. Faut le savoir. Le dernier, Frédéric Bourali, il est arrivé. Comme ça, c'est Dounia qui a dit, mais il serait bien Frédéric dans ce rôle-là. Donc, et Stéphane et non, et Jérôme Bertin et Joachim seront peut-être les prochains guests de la Doc Helvéto. En tout cas, ouais, on espère vous retrouver vraiment tous dans plein d'autres projets. Parce que ça, c'est évidemment la fin d'une aventure vendredi, mais c'est aussi le début d'une autre et le début d'autre chose qui se construit. Et projet, Joachim, est-ce qu'il y a des choses qui se dessinent à l'horizon?
Du bricolage, du jardinage, éventuellement un stage de macramé. Donc je lance un appel, si les gens font éventuellement un atelier poterie aussi, ça m'intéresse. Ouais.
Bon, le temps de vivre aussi peut-être, voyager, à temps plus belle la vie, c'était énergivore quand même. Ça a pris énormément de temps, une quotidienne, on sait quand même le temps que ça prend et l'énergie que ça mange.
Ah non, mais c'est sûr que là, j'ai envie de faire tout ce que j'ai pas fait avant. Hein. C'est-à-dire, par exemple, lire plus que je l'ai fait, voyager. Non, il y a plein de choses. Non, mais j'ai aussi des projets, notamment...
Tu reviendras nous parler.
Exactement.
Dounia et Joachim, merci d'avoir été avec nous et d'avoir évoqué avec nous vos souvenirs. Jérôme et Stéphane, ils vont revenir la semaine prochaine pour la grande finale de Plus belle la vie, notre 100% Plus belle la vie dans Chute, on écoute la télé. Merci encore à vous deux.
Le 18 novembre.
Le 18 novembre ?
On a un truc prévu le 18 novembre ?
Mais oui ! Oui, on se retrouve tous pour une soirée très spéciale sur France 3.
Après 18 ans de vie commune, 18 ans d'amour et d'aventure, l'histoire de Plus belle la vie se termine.
Mais ne soyons pas tristes, bien au contraire.
On vous donne rendez-vous pour faire la fête.
Une fête à notre image, joyeuse et émouvante.
Et on vous a concocté un final en apothéose.
Notre dernière soirée au Mistral, ce sera exceptionnel. Et ce sera avec vous.
Le 18 novembre sur France 3.
Et nos coups de cœur télé consacrés à Addict, c'est le grand final jeudi sur TF1. Que de suspense, ça fait deux semaines qu'on est complètement accro à cette série. Et alors, on a bien de la chance aujourd'hui puisqu'on va recevoir Louis Duneton qui est avec nous. Bonjour Louis.
Bonjour, enchanté.
Merci beaucoup d'être avec nous. On a eu l'occasion de te recevoir à l'époque où tu avais une maman qui t'appelait Crapaud dans une série. Hein. Je sais pas si tu te souviens, mais alors le Crapaud, il a bien changé quand même. Il est beau gosse maintenant.
J'ai des vagues souvenirs, effectivement, de cette période.
Bon, en tout cas là c'est une sacrée histoire Addict et j'avais envie qu'on puisse t'avoir justement au téléphone pour parler de cette série qui est complètement incroyable, addictive. Elle porte bien son nom d'ailleurs, et il faut dire que ton personnage, puisque tu joues le rôle du fils de Mehdi Sadoun et de Cécile Bois, c'est le seul en gros qui est lucide vis-à-vis de ce voisin et qui va tout faire pour le faire tomber, évidemment. Et on voit l'ampleur que ton personnage prend dans le 3 et 4, et il comprend à la fin de l'épisode qu'on a vu jeudi dernier justement que la famille est surveillée, et on te voit tout péter à la fin du 4e épisode, mais c'est loin d'être fini, hein, je crois que les deux derniers ça va être l'apothéose.
C'est ça en fait, la série amène ça assez bien je trouve, parce qu'en fait au début on y croit en tant que spectateur en coïncidence de en fait il est toujours là au bon endroit au bon moment quoi, en fait dès qu'elle sort de la maison il est en train d'arroser les plantes et machin, et puis petit à petit on comprend ce qui se passe et on se dit mais merde comment ils vont faire pour trouver la vérité. Après mon personnage effectivement c'est le premier à trouver ça. Après c'est une histoire tellement incroyable que je pense même mon personnage il sait que c'est la vérité, parce que aussi il a une relation avec le voisin qui est joué par Laurent Dutch, qui lui peut pas blairer Bruno etc, mais c'est vrai que c'est lui qui va trouver la vérité en premier, et du coup il va être un peu seul avec cette vérité parce qu'elle est franchement improbable, on va pas le croire en fait. Et donc sur la fin ça va être comment est-ce qu'il va réussir à convaincre les autres, et dans les autres il y a aussi la police, que c'est en fait le voisin qui les manipule depuis le départ, et une fois qu'ils s'en sont rendus compte, comment est-ce qu'ils vont faire pour se débarrasser de lui quoi.
Et oui, et surtout comment Bruno va réagir, incarné par Saga Mortensen, quand il va comprendre que finalement ton personnage c'est tout. Comment va-t-il réagir et comment va-t-il se venger? Ça va être tout l'enjeu des deux derniers épisodes. Hein.
Il va se venger, ouais. Il va se venger, mais ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il a toujours un coup d'avance sur la famille, et donc y compris sur le personnage d'Achille. Et du coup, c'est inquiétant de découvrir en tant que spectateur que mon personnage découvre la vérité, parce qu'on se dit, mince, s'il a toujours un coup d'avance, alors un coup d'avance sur cette découverte-là aussi, il va lui en faire voir de toutes les couleurs, et c'est ce qui va se passer, ouais. C'est vrai que c'est assez haut en couleur. Il se passe beaucoup de choses dans les deux derniers épisodes. Il y a eu un ou deux épisodes où l'histoire se mettait en place et toute l'histoire là va se éclore quoi dans ces deux épisodes-là qu'on va voir bientôt.
Ouais. Et oui. Alors comment tu le définirais toi, Achille ?
Bon bah Achille, c'est un grand frère. Tu vois, je sais pas. Je le définis comme ça avant tout. Après, il est défini notamment par les auteurs comme un enfant surdoué aussi qui a les capacités du coup de se défendre et de mener son enquête de son côté, que c'est pas forcément donné à tout le monde de mener cette enquête-là. Mais moi, ce qui m'a le plus heurté, c'est son côté grand frère. Je sais pas comment le dire autrement, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans le personnage en soi, parce qu'il y a le personnage en soi, et après, il y a ce qui lui arrive, donc c'est deux choses différentes.
Oui.
Donc lui, tel qu'il est, c'est un mec assez tranquille, en fait. C'est quelqu'un de très courageux et absolument déterminé. Mais en même temps, si ça avait pu bien se passer, ce déménagement, ça l'aurait arrangé, quoi, tu vois.
Alors on voit que c'est un mec tranquille, mais on va voir qu'il faut pas le chauffer quand même dans les deux derniers. Hein.
Faut pas le chauffer, donc faut pas toucher à. En fait, Bruno va toucher à toutes les personnes qu'il aime aussi, hein, donc
oui.
Effectivement. Mais il sait se défendre. Il sait se défendre. Ouais.
T'as été surpris, Louis, des fois par le jeu de Sagamore, par justement ce qu'il mettait dans ce personnage quand t'étais face à lui, quand tu jouais face à lui, parce que c'est impressionnant, nous en tant que spectateurs, mais on est complètement happé par ce moi j'appelle ça un immense comédien, parce que quand on connaît Sagamore, il est tellement gentil, c'est tellement quelqu'un d'agréable, et que là, mais c'est fou ce qu'il fait là.
En fait, ce qui est drôle, c'est que nos personnages, ils se font une guerre, mais ils se font une guerre qui est tellement numérisée, si tu veux, qu'ils se croisent pas beaucoup, en fait. Et donc, je veux pas spoiler la suite, mais en tout cas, nos personnages se croisent peu, et du coup, en fait, j'ai peu tourné avec Sagamore, finalement, dans la série.
Ouais.
Parce qu'on avait que des scènes où on parlait l'un de l'autre, où moi, je parle que de lui, et où je fais mon enquête de mon côté, où je suis de mon côté, j'essaie de résoudre ce qui me fait tomber du ciel sur la tête, quoi, en fait. Mais on se croise rarement. Il y a eu notamment la scène la plus grosse scène qu'on a fait ensemble, c'est la scène qui est dans l'épisode 1 je crois, où il y a la soirée et il arrive et il pète la gueule des gens qui viennent etc, et c'est vrai que c'est chouette de travailler avec des acteurs comme ça, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment investi dans ce qu'il fait, dans le rôle qu'il joue, dans la situation dans laquelle il est, et on sent qu'il met tout de côté pour avoir toute son imagination au service de ce qui se passe, et du coup il propose tout le temps plein de choses en fait. De mon expérience, une scène avec Sagamore, elle se passe rarement comme elle a été écrite à la base, parce qu'en fait, il prend le décor et les gens qui sont là, et tout le monde reste concerné par la situation, etc. Et donc ça donne des inventions. Et c'est pour ça qu'on aime bien être acteur aussi, pour pouvoir inventer et vraiment traverser des moments, quoi. Et ça, il fait ça très bien, c'est certain.
Alors, t'as souvent été très très bien entouré, hein, franchement, avec tous les comédiens avec lesquels t'as joué jusque-là. Mais là, franchement, Sagamore, Cécile et Mehdi, sans parler de Lucie, qui est extraordinaire, je crois que tu pouvais être...
Il y a Aurore Clément aussi qui joue, qui joue
ta grand-mère ouais.
Qui est une grande actrice.
C'est fou.
C'est vrai que
le casting est dingue autour de toi.
Et moi, j'ai souvent des grand-mères de luxe, quoi. Parce que là, j'ai, dans la série que j'ai fait avant, qui s'appelle La Fête à Rousseau, c'était Annie Dupéret.
Ouais.
Et j'étais avec Annie Dupéret et Charlie Dupont.
Et Charlie Dupont qui jouait ton père, oui.
Ouais, et là, c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'en plus, il y a vraiment une vie de famille qu'il faut trouver parce que c'est très important. Il y a beaucoup de séries où la vie de famille, elle est au second plan, notamment les séries policières, par exemple, où ça, c'est des intrigues qui sont secondaires. Et là, c'est le cœur de la série. Il est dans cette vie de famille. Il faut qu'on s'attache à la famille pour qu'on n'ait pas envie qu'il leur arrive ce qui leur arrive, en fait. Je dois dire que Cécile et Mehdi ont tout de suite créé cette famille. On a tourné longtemps, on a tourné 4 mois. Et beaucoup dans ce décor de notre maison. Et assez rapidement, on a développé une relation d'enfant à parent, de jeunes acteurs à acteurs plus confirmés. C'est toujours agréable quand ça se passe bien comme ça, quoi. Et j'avais déjà tourné avec Cécile, moi, dans Candice Noir, mais il y a très longtemps, en 2012, je crois.
Ouais.
Et donc, c'était chouette de se retrouver aussi cette fois, quoi. Après tout ce temps qui a passé, quoi.
Eh ben, ne ratez pas si vous avez vu les 4 premiers épisodes d'Addict. Les 2 derniers, c'est jeudi, c'est sur TF1, c'est 21h10. Et franchement, vous allez halluciner de ce final. Moi, je l'ai vu, mais je dirai rien, même sous la contrainte. Mais je peux vous dire qu'il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Alors, une autre série, je sais qu'elle a compté beaucoup pour toi. C'est celle qui t'a donné le tremplin, pour le coup. On t'a connu à travers ce personnage de Valentin Nebout dans Plus belle la vie. La série s'arrête maintenant dans 11 jours, le 18 novembre prochain. Est-ce que quand t'as appris l'arrêt de la série, ça t'a fait un petit pincement au cœur pour toutes les personnes avec qui t'as joué? Est-ce que t'aurais aimé, en tout cas, refaire un petit clin d'œil ou un petit coucou lors du prime final ou lors de la fin de la série?
Moi, oui, ça fait un pincement au cœur. En fait, il y a souvent, même quand j'y étais en 2012, 2014, tous les 2 ans, il y a une rumeur comme quoi Plus belle la vie va s'arrêter depuis que j'y ai joué, en fait. Enfin, depuis que je connais la série, il y a souvent eu cette rumeur. Et donc, moi, j'y croyais pas trop, en fait, quand j'ai entendu que ça allait s'arrêter. Puis j'ai demandé à des gens, notamment à Jérôme Bertin et Marie Réache, qui sont toujours dans la série, si c'était vrai. Et quand ils m'ont dit que c'était vrai, effectivement, je me suis dit... Oh, c'est la fin d'une époque, quoi. C'est vrai. Et puis moi, j'ai grandi là-bas, que je suis arrivé à 16 ans. Je suis parti de la série à 19 ans. Donc c'est aussi mon adolescence, malgré tout, qui y a une partie de mon adolescence qui se ferme là, avec la fin de cette série.
Je suis sûr que les gens t'en parlent encore de Valentin.
Ouais, en fait, on en parle quand on sait, parce que on me reconnaît. En fait, j'ai vachement changé. J'ai pas mal changé physiquement. Et on me reconnaît plus de Valentin, en fait.
Ouais.
Donc il faut que je le dise quand je parle avec des gens. Ils disent bah moi j'ai commencé dans Plus belle la vie. Ils font attends quoi? Mais et après ils disent ah mais attends mais t'étais Valentin. Et je me dis ah oui. Et c'est drôle. C'est un personnage pour lequel les gens avaient beaucoup d'affection.
Ouais,
et moi le premier,
vrai.
Hein, d'ailleurs. Ce qui est drôle, c'est que ce truc de crapaud, c'était une impro de Marie Réache. C'était pas du tout dans le scénar, en fait. Elle a improvisé sur le plateau et ça m'a suivi pendant 4 ans. Donc merci à Marie, mais en tout cas, c'est un personnage auquel j'étais beaucoup attaché, même si ça n'a jamais été mon intention de retourner dans Plus belle la vie. C'était quand même une porte ouverte, je me disais, ah, peut-être un jour j'irai faire un prime si la bonne occasion se présente, etc.
Ouais.
Et puis l'occasion s'est présentée, si tu veux, de revenir pour le final de la série. Et puis en fait j'ai pas pu le faire parce que j'étais sur d'autres projets et donc voilà, mais donc j'ai pas pu faire partie de ce final là, mais oui, si jamais ça avait été l'occasion qui avait réuni aussi les acteurs avec qui je l'ai fait, à savoir Charlie Jouarquin, Geoffrey Piet, Zora Tracino et Alicia Ava, qui jouaient mes acolytes au lycée à l'époque.
C'est vrai.
Ça aurait été une superbe occasion de se retrouver, mais voilà, tous les éléments n'étaient pas réunis et du coup, j'en étais pas, mais je serai devant mon écran pour saluer la série une dernière fois et puis dire au revoir à une période de la télé française, c'est sûr. Après, il y a d'autres quotidiennes qui prennent le relais maintenant.
C'est
sûr. Avant, c'était un peu la seule, donc là, maintenant, avec les autres, on sent que c'est un passage de flambeau aussi vers eux, quoi.
Et oui, c'est sûr. Et comme aime à dire, en tout cas, les productrices, nous sommes la mère des autres séries. Et c'est vrai, voilà, c'était la première. Et en tout cas, voilà, c'est tous avec un pincement au cœur qu'on lui dira au revoir dans 11 jours avec tous les comédiens. Merci beaucoup, en tout cas, parce que c'est un joli bout de carrière que vous êtes en train de faire. Tu parlais d'Alicia Ava, on la retrouve aussi dans d'autres séries, de Charlie Jouarquin. Voilà, tous des comédiens formidables. Ça a été un beau tremplin et on a toujours, en tout cas, beaucoup de plaisir à vous voir dans d'autres projets aujourd'hui. Donc voilà, continuez cette belle route et on sera sur la vôtre à chaque fois.
Ben merci, je croise les doigts pour qu'on se retrouve et puis ouais, merci hein. J'espère que le final sera haut en couleur et qui vous surprendra tous si ouais. Vous avez tenu bon et que vous êtes pas en train de les regarder sur Salto déjà.
Oui, si vous avez pas fait comme moi, c'est clair. Addict. En tout cas, c'est jeudi, c'est 21h10 sur TF1. Merci beaucoup Louis, à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
C'est quoi cette photo? Tu te fous de ma gueule
c'est
ou quoi?
Moi, attends, range ton téléphone.
Addict, le final jeudi prochain sur TF1.
C'est grave ce que t'as fait.
Non, je te dis que c'est pas moi. C'est Bruno. Il voit tout ce qui se passe, il entend tout ce qu'on dit. Mais évidemment, tu me crois pas.
Je suis enceinte.
C'est con à dire, mais je suis foutu. Tu peux pas rester chez toi. Je veux pas qu'il te fasse de mal.
Nous avons ordre de perquisitionner votre domicile.
Tu dois y avoir une bonne raison à toute cette merde.
Dans un instant, Christelle Oscar, directrice artistique du Festival de Sarlat, et Arnaud Vial, directeur du Rex, qui accueille l'édition, seront avec nous. Alors surtout, ne bougez pas, tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
À 48 heures de mon cœur, tu restes là, je sens, je te vois. À 48 heures de mon cœur, ne me laisse pas, le manque me hante, j'attends. À 48 heures de ton cœur, j'accours, je pleure, ça fait déjà longtemps. À 48 heures de ton cœur, la passion se sent. À deux jours de ci, deux jours de toi, cuore mio, je t'avais suivi, tu m'avais senti. À 48 heures de mon cœur, tu vis ta vie pourtant liée, alors je crie. À 48 heures de mon cœur, pourquoi si vite parti, tes promesses finies. À 48 heures de mon cœur, à 48 heures de ton cœur, un peu de rancœur, mais on se retrouve toujours. À 48 heures de ton cœur, toi et moi à le retour. À deux jours d'ici, deux jours de toi, cuore mio, je t'avais suivi, tu m'avais senti. À deux jours d'ici, deux jours de toi, cuore mio, je t'avais suivi, tu m'avais senti. Ce qui te fuit, oh, laisse-toi guider sur le fil qui te ramène à moi. Pour un avenir à jamais lié pour toi. À deux jours d'ici, deux jours de toi, cuore mio, je t'avais suivi, tu m'avais senti. À deux jours d'ici, deux jours de toi, cuore mio, je t'avais suivi, tu m'avais senti. Deux jours de toi, cuore mio.
Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Et on va terminer cette émission comme il se doit avec la 31e édition du Festival de Sarlat, Festival du film qui démarrera donc demain à Sarlat. On prendra la route demain matin pour aller rejoindre toute cette belle équipe et cette belle organisation avec la directrice artistique du festival qui est avec nous, Christelle Oscar. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Merci d'être là. Et le directeur du cinéma de Sarlat, très impliqué dans ce festival depuis maintenant plus de 30 ans que le Rex à Sarlat accueille cette édition du Festival du film. Bonjour Arnaud.
Bonjour Alain.
Merci d'être là tous les deux avec nous. On est venu à Sarlat pour la première fois l'année dernière, vivre cette 30e édition. Et on n'avait qu'une hâte, c'était de vous retrouver pour cette 31e édition. Tellement le cadre et l'accueil sont chaleureux à Sarlat au festival. Je crois que c'est vraiment une marque de fabrique. Et vous mettez un point d'orgue vraiment sur l'accueil, je crois, notamment.
Ça fait partie, c'est vrai, de l'identité du festival depuis des années. Donc ça, on n'y déroge pas. Et voilà, c'est, je pense aussi parce que l'organisation est telle et l'équipe est telle que tout le monde peut se permettre d'accueillir dans des situations, dans des conditions relativement détendues, puisque le travail est plutôt bien fait.
Et il faut dire que le cadre d'accueil s'y prête beaucoup, puisque Arnaud, tu as un cinéma, le Rex à Sarlat, qui est absolument merveilleux pour accueillir ce genre d'événement avec une salle, une grande salle magnifique. Et moi, je me souviens que ce festival accueille des projections dès 9h le matin avec des lycéens plein la salle, mais que ça fait du bien voir des jeunes, parce que c'est aussi un festival tourné vers les jeunes, de voir des jeunes lycéens s'intéresser au cinéma comme ça. On a besoin, c'est eux le futur, c'est eux l'avenir du cinéma.
Oui, oui, tout à fait, tu as raison. C'est vrai que on est vraiment une condition particulière pour l'accueil de l'ensemble des spectateurs et des artistes. Et puis, ce festival, effectivement, est tourné vers la jeunesse. Donc, c'est le spectateur de demain. Donc, il faut en prendre soin et il faut essayer de les nourrir le plus possible. Mais tous les ans, avec une programmation diversifiée et curieuse, cela nous permet d'attirer de plus en plus de spectateurs et puis d'attirer l'attention des jeunes également pendant ces 5 jours.
Et dans un contexte plus que tendu, on sait hein, aujourd'hui les difficultés que traverse toute la filière hein, du cinéma et notamment les exploitants de salles aujourd'hui avec des fréquentations en baisse drastique. Et ce genre d'événement et ce genre de festival tombe à point nommé hein, pour justement attirer les gens dans les salles et leur redonner l'envie du grand écran en quelque sorte, Arnaud. Hein.
Oui, oui, effectivement, on traverse une période qui est très compliquée. On a du mal à s'en sortir. Ça fait maintenant 3 ans, mais on est toujours sur des valeurs de moins de 30%. Donc c'est compliqué, mais effectivement, tu as raison. C'est l'envie d'avoir envie et les événements créent la sortie. Et on s'en rend bien compte puisque on a démarré les préventes il y a maintenant 7 jours et on est à plus de 3500 réservations. Donc ça veut dire que les gens ont vraiment envie de se retrouver ensemble, en salle, ensemble, justement, pour vivre et partager des moments et des émotions collectives. Donc, ces événements comme le festival font partie d'une reconquête du public pour redonner envie d'avoir des spectateurs dans les salles et des spectateurs nombreux.
Et il va y en avoir pour tous les goûts, Christelle, avec l'événement qui nous attend demain soir, mardi pour l'ouverture, la venue de Gad Elmaleh. Ça va être un événement à Sarlat.
Ah ben certainement, parce que c'est vrai que du monde est passé à Sarlat, mais Gad Elmaleh, il n'est jamais venu, non, donc... Et c'est d'autant plus surprenant qu'il arrive avec un film très personnel, très surprenant, qui est loin de son précédent film, qui était une comédie. Et donc déjà sur ce postulat de départ, il y a de quoi être surpris. Et puis dans un deuxième temps, quand les gens auront vu le film, ils verront que c'est un film qui a une grande personnalité, beaucoup de profondeur, et que comme le disait justement Arnaud, c'est vrai que voilà, l'ADN étant la rencontre et l'échange sur un type de film comme ça, c'est un cadeau de pouvoir échanger avec l'auteur. Donc voilà, oui, première ouverture prestige avec un petit bijou et quelque chose d'intime et personnel absolument touchant.
Une ouverture avec Gad Elmaleh, une clôture avec José Garcia, mais est-ce qu'on peut rêver mieux, franchement?
On est gâtés cette année, surtout tous les deux, dans des registres complètement à contre-courant, puisque José Garcia sera dans le thriller d'Anne Leni, dans un rôle très sombre. C'est un jeu de culpabilité, enfin c'est un film qui vous prend aux tripes, assez noir, et José Garcia excelle dans son interprétation. Donc c'est dans les deux cas, les personnalités se mettent un petit peu en danger et sortent des cases dans lesquelles elles sont souvent assignées.
Alors tout le reste de la semaine, évidemment, il va y avoir des films qui vont se succéder. La particularité aussi, c'est qu'il y aura des débats après chaque film, l'occasion de pouvoir échanger avec ceux qui le fabriquent, tout simplement, avec souvent des jeunes lycéens et puis du public qui vient en masse de Dordogne et d'ailleurs. Et ça, c'est toujours aussi un plaisir de pouvoir échanger avec ceux qui font le cinéma.
Oui, c'est vrai que pour les lycéens, ça fait partie d'un pack extrêmement complet qui va du programme pédagogique avec tout ce qui est, puisque ce sont des lycéens qui sont en spécialité cinéma, donc ils sont là aussi pour approfondir les films du programme. Donc cette année, ils vont travailler Les Vitelloni de Fellini avec une conférence, avec une rétrospective. Ensuite, ils mettent la main à la pâte avec ce qu'on appelle les petites séquences, qui sont des petits tournages qu'ils dirigent, qu'ils mettent en scène, qu'ils montent et qu'ils projettent sur le temps des 5 jours du festival. Et puis, ils ont des ateliers, les ateliers du savoir qui sont donnés par des professionnels de tous horizons qui viennent leur faire des retours d'expérience. Donc, ils peuvent aussi avoir en face d'eux des gens qui représentent des corps de métiers différents, le son, l'image, la critique, les costumes, etc. Et puis, donc, ils ont déjà ce programme bien chargé. Et puis, cerise sur le gâteau, ils ont l'occasion de ce temps privilégié avec les équipes de la sélection officielle qui viennent les voir au centre culturel et qui ont un temps de débat avec eux. Et en général, c'est un cadeau pour les uns et les autres. C'est-à-dire que les équipes en sortent toujours absolument enchantées parce que c'est un public aussi sans filtre, très frais et qui se raréfie, comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, évidemment. Et puis, les lycéens, je pense, font des bons aussi dans leur cinéphilie et dans leur parcours personnel puisque, voilà, ils ont l'occasion de poser toutes les questions qu'ils veulent à des auteurs et à des comédiens et des comédiennes qui représentent les films. Donc, c'est vrai que c'est très, très complet.
Arnaud, ce genre de festival, quand on voit l'accueil qui lui est fait et qui est fait aux équipes, ça permet, du coup, le reste de l'année, les distributeurs, les équipes de films pensent beaucoup plus à Sarlat pour passer. Ça t'a permis d'accueillir plus d'équipes de films, du coup, tout au long de l'année, au Rex, notamment?
C'est vrai que ce festival date depuis plus de 31 ans. Mes parents avaient démarré. Après, on continue avec Joël Bellon, qui a généré une notoriété avec notamment des vedettes et des artistes. Puis, se sont succédés de nombreux délégués généraux. Ça permet effectivement de nouer des relations avec les distributeurs, mais je dirais que quand même les relations avec les distributeurs sont là depuis longtemps et toute l'année, puisqu'on travaille tous les jours, toutes les semaines avec eux. Effectivement, lorsqu'ils arrivent à Sarlat et qu'ils voient l'enthousiasme des spectateurs, l'enthousiasme de ces lycéens derrière, effectivement, leur permettent de se dire, ben tiens, pourquoi pas inclure ça là dans une tournée. C'est pas forcément facile d'accès, mais lorsqu'ils le peuvent, honnêtement, ils pensent à nous et ça nous fait plaisir, d'autant plus dans la conjoncture dans laquelle on a parlé tout à l'heure.
Mais oui.
C'est important de redonner, de remouiller le maillot quelque part. On a besoin que les talents reviennent en salle, reviennent en province, refassent un petit peu le job. Sur lesquels c'était peut-être un peu arrêté qu'aux grandes villes. Et donc, c'est bien d'aller en province, dans le milieu rural, d'aller à la rencontre, de nouveau à la rencontre des spectateurs et du public qui les ont fait grandir, en fait. Donc, voilà, je pense qu'il faut revenir à des bases essentielles, c'est d'aller voir le public, de pouvoir aller à l'échange, de pouvoir aller à leur rencontre. Et là, cette année, à partir de demain, c'est exceptionnel le plateau que Christelle nous offre et que les distributeurs ont bien voulu également jouer le jeu pour nous apporter autant de talent à Sarlat pendant 5 jours.
Eh bien, on va évidemment faire battre notre cœur avec le vôtre tout au long de cette semaine. On prend la route demain matin, on vous rejoint. Demain après-midi, on sera à Sarlat avec vous pour vous faire vivre cette 31e édition du Festival du film de Sarlat. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les informations évidemment sur le site festivaldufilmdesarlat.com. Vous pouvez retrouver non seulement le programme et puis aussi la page Facebook du Festival, Festival de Sarlat, que vous pouvez donc rejoindre pour suivre évidemment tous les événements qui vont se passer cette semaine. Merci beaucoup Christelle, merci Arnaud d'avoir été avec nous et je vous
merci
dis à demain.
À vous.
Merci, à demain.
À demain, à tous les deux. Merci.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Émission spéciale Plus belle la vie pour la fin de la série. Nous avons convié plus d'une dizaine de comédiens qui seront avec nous pour fêter eh bien la fin de la série comme il se doit, évoquer les souvenirs de tournage et puis parler évidemment de ce prime qui approche maintenant à grands pas. Vous l'avez compris, lundi prochain, c'est 100% Plus belle la vie dans Chute, on écoute la télé.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android Chute. On écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.